Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 20e podcast, le dernier de l'année concernant l'équipe de France de football. On va essayer de trouver de quoi décortiquer les deux derniers matchs de l'équipe de France face aux États-Unis et à la Belgique. Et pour cela, on va le faire avec Raphaël de lamagère.fr. Bonsoir Raphaël.
Salut.
Ludovic d'amateurdefoot.com.
Bonsoir tout le monde, bonsoir.
Et Bruno des chroniquesbleues.fr.
Bonsoir.
Alors, vous allez m'aider parce que moi, personnellement, je n'ai simplement vu que trois quarts d'heure, donc une mi-temps de France-Belgique. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur ces deux rencontres, si ce n'est que les Français se sont fait un peu bouffer au milieu de terrain par les Belges sur la première mi-temps en tout cas. Après, je sais pas vraiment comment les choses ont évolué. Et donc voilà, après, Raphaël, sur les deux matchs, qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce qu'il y avait un match plus intéressant que l'autre? Enfin voilà, lâche-toi, vas-y.
Si le sujet n'était pas l'équipe de France, j'aurais retenu Marouane Fellini, en fait. Mais
vraiment, c'est sur la première mi-temps.
Ouais, mais côté français, j'aurais retenu quoi? J'aurais retenu que, bon, il y a certains qui ont assuré leur place à l'Euro. Je pense à Rémy. Je pense à Ribéry, qui, avec une bonne mi-temps, a dû assurer sa place à l'Euro aussi. J'ai quand même trouvé que le 4-3-3 était beaucoup plus intéressant que le 4-4-2. Mais sinon, je vois vraiment pas ce qu'on peut conclure de match aussi soporifique, quoi. Il y a eu quelques actions, mais c'était toujours en contre presque, en récupérant la balle haut. Ce serait peut-être un avantage d'ailleurs face aux grosses équipes qu'on risque de rencontrer. Mais sinon, non, ça m'a pas emballé. J'ai pas trop de trucs à retirer de bon de ces matchs, quoi.
Ludovic, là-dessus?
Oui, on est à peu près. Je suis à peu près d'accord avec Raphaël. C'est vrai qu'il y a peu à retirer. Limite, on a envie de se dire que ceux qui ont plus gagné hier, bah, c'est ceux qui n'ont pas joué pour certaines raisons.
Enfin, tu veux parler d'Abou Diarra, Ludo?
Non, de Nasri, par exemple.
PC, ouais, voilà, du genre Nasri, qui voilà, même s'il a pas fait des, il a fait des matchs aussi mauvais juste avant, mais. Mais hier, personne ne sort renforcé, à part peut-être, oui, Ribéry, qui a été, comme on disait, hors antenne, le moins pire de tous. Mais que c'était long. Et encore, pas pire contre la Belgique que contre les États-Unis.
Bruno, Belgique, États-Unis, un match mieux que l'autre, ou vraiment c'était la même chose?
Ouais, je trouvais que c'était à peu près la même chose. Et le point commun aussi qu'il y avait entre ces deux matchs, c'est... On s'est un peu fait manger physiquement par les deux équipes qui étaient a priori moins techniques que l'équipe de France. Et aussi bien les États-Unis que les Belges ont eu plus d'impact physique, ont été souvent les premiers sur les ballons, surtout à chaque fois en première mi-temps. Après, ça s'est un peu équilibré. Donc on a été un peu court de ce côté-là et on n'a pas compensé par une technique supérieure. Enfin voilà, contre la Belgique, ça ressemblait un petit peu à un match de basketteur contre des hockey. Non mais c'est vrai, quand tu regardes les gabarits des Belges et
au milieu de terrain surtout, justement.
Voilà, en face, Villa, Martin et Cabaye, ça c'était assez rigolo à voir, quoi. Mais curieusement, on en a même pas profité, c'est-à-dire ça aurait pu tourner aussi à notre avantage, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, voilà, on a montré des limites contre deux équipes qui, bon, disons que ça soit quand même des équipes redoutables. Et moi, j'attends un peu avec impatience le match contre l'Allemagne en février, puisque là, on devrait voir autre chose, sûrement. Sauf si on tombe contre au premier tour à l'Euro, auquel cas, il est possible que le match amical n'ait pas lieu ou qu'il soit remplacé par un autre. Mais... Là, j'ai trouvé que on a touché des limites assez surprenantes quand même. Voilà.
Raphaël, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais. Bruno a parlé de comment c'était fait manger physiquement. C'est vrai que sur les deux matchs, notre milieu a été, j'ai pas envie de dire inexistant, mais il était décevant, parce qu'au premier match, on avait un 4-4-2 et on avait un milieu à deux, Mvilla et Diarra, non? C'était ça.
Mvilla
Diarra, et ils étaient vraiment trop bas pour qu'on puisse avoir de l'influence sur le jeu et qu'on puisse dominer. Du coup, il y avait un écart énorme entre les deux et devant les quatre qui essayaient de courir pour avoir la balle. Et sur le deuxième match, le 4-3-3, même si j'ai trouvé les mouvements plus intéressants, il y a Martin qui a fait un match fantôme en première mi-temps. J'ai pas trop compris. D'ailleurs, il est sorti en deuxième, je crois. Donc,
il a joué tout le match.
Ah bon, ah, d'accord.
Cabaye et demi, on se fout tout le match.
À Bordeaux, c'est ce qu'on appelle faire une jussier. C'est on voilà, croit qu'il est sorti, il n'est pas là, et finalement, en fait, il est sur le terrain, on s'en rend compte une demi-heure
mais
après.
Non, non, mais Martin a vraiment fait un match fantôme, et, mais Cabaye, bon, il était correct, hein, comme d'habitude. Mais on n'a jamais eu cette percussion au milieu de terrain. On a, parce que j'ai toujours trouvé qu'on a, de ce dont on manquait, c'est un joueur box-to-box un peu, qui puisse percuter, qui puisse aller de bloc en bloc comme ça, accélérer. Et c'est un peu pour ça que, comme disait Laurent Blanc, Diaby est le joueur du 21e
voilà,
siècle.
Mais... J'allais te couper pour le mettre, mais...
Ça, ouais, voilà, c'est pour ça qu'on peut se moquer de Diaby et de ses blessures, mais je pense qu'il sera quand même utile.
On va y venir de suite, on devait le faire qu'à la fin, mais bon, c'est la bombe qu'a lâché Laurent Blanc cet après-midi. Il compte vraiment sur Abou Diaby, donc qui n'a pas joué avec l'équipe de France. Bruno, tu sais à peu près depuis quand il n'a pas joué
Il n'était pas là sur la tournée de l'été, donc ça doit être au tout début d'année, je pense. Hein,
ce qui fait que. Et alors,
10 mois, quoi.
Ouais, ben voilà, une dizaine de mois, disons. Et pourtant, il a, c'est ce qu'a dit Laurent Blanc, en tout cas, il a clairement laissé entendre Ludovic, il a déjà sa place assurée à l'Euro. S'il n'est pas blessé, évidemment.
Si, voilà, c'est ça le plus dur, en fait. C'est de savoir quand il ne va pas être blessé. Et en même temps, justement, est-ce qu'on peut vraiment donner tort à Laurent Blanc parce que sur les quelques matchs qu'il a réussi à faire en sélection, je l'ai justement trouvé relativement convaincant, que ce soit à la récupération, à la percussion après pour projeter tout le bloc vite vers l'avant. C'est vrai que ça a été un des plus convaincants et des plus prometteurs.
Même à la Coupe du Monde 2010, c'était un des seuls qui s'était avéré intéressant.
Ouais, c'est notamment dans les
matchs amicaux.
Ouais, voilà.
Lors des matchs amicaux, il avait vraiment été super intéressant.
C'était clairement le meilleur milieu de terrain et l'un des rares à sortir du lot à la fin de l'ère Domenech. Mais c'est vrai que là, le match référence là, depuis que Laurent Blanc est arrivé. On remonte, puisque là on va faire un peu un bilan maintenant, on a évacué les deux matchs. On va faire un petit peu un bilan de l'année 2011. Même si là je vais parler d'un match qui a eu lieu en 2010, le match référence de cette équipe de France c'est celui en Bosnie. C'est toujours ce match-là, en tout cas de mon point de vue. Et c'était Bruno avec Abou Diaby au milieu de terrain, même s'il était entouré et d'un bloc qui était plus là d'abord pour défendre et bien contrer son adversaire.
Oui, mais dans cette position-là, il jouait en fait devant Alou Diarra et Mvila.
Ouais.
Donc en position plus avancée peut-être que ce qu'on le voit d'habitude. Et c'est peut-être là où il est intéressant et qui peut apporter quelque chose. Parce qu'effectivement, l'enseignement qu'on peut retenir, pas que de ces deux derniers matchs, mais en gros depuis le mois de septembre, hein, où il y a quand même une grosse baisse de niveau après le match contre le Chili qui était assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meneur qui s'est révélé. Quoi. Enfin, Nasri n'a pas été très bon, Martin a joué par intermittence, mais il n'a pas vraiment convaincu. Effectivement, Diaby peut être une solution. Le problème, c'est qu'il est... Il est toujours blessé, il joue très peu et c'est quand même un peu difficile de compter sur lui sur le long terme, quoi, parce qu'il est jamais là.
Bon, là, du coup, on en a un là, qui a sa place assurée. On a, en début de podcast, on a parlé aussi de Loïc Rémy et de Franck Ribéry qui, sur leurs deux derniers matchs, là aussi, s'ils ne sont pas blessés, ont peut-être assuré leur place. On a Benzema, on a les trois gardiens.
On a Mvila.
On a Cabaye quand même, puisqu'il a quand même enchaîné pas mal de matchs, là, dernièrement.
Rami aussi, je pense que lui...
Rami...
Mexès, il est dans le coin, hein, même, il a redit, ça fait vraiment partie aussi des choses qu'il a dit tout à l'heure, sur RMC, en disant qu'il avait le profil du capitaine, qu'il avait toutes les qualités du cadre, les fameux cadres qu'on évoque aussi depuis des semaines et des semaines, et et dont on manquerait en équipe de France.
Ce qui est drôle,
oui, c'est pareil.
Si, c'est que, excuse-moi, que le match référence qu'on a face à la Bosnie, l'équipe n'était pas du tout la même qu'on a aujourd'hui, en fait.
Oui.
Parce que c'était Malouda, Valbuena sur les ailes. Aujourd'hui, les deux, ils sont grillés. Enfin, Valbuena est bon en championnat, mais il ne le sélectionne même plus. On avait en défense, je crois que c'était Evra à gauche. C'était Mexès, Rami. Mexès, depuis, il s'est blessé et il n'a plus joué. À droite, ça devait être Sagna. Et milieu de terrain, c'était Diarra.
Mbila, Diaby.
Qui est moqué par tout le monde. C'était Diaby qui est tout le temps blessé. Et c'était Mbila qui, bon, d'accord, va aller à l'Euro. Mais sur les derniers matchs, bon, en plus, il s'est cassé le dos. Donc. Voilà.
C'est vrai que là, tout le monde a pensé à Federico Antonetti. Hein, sur,
bah oui.
Après cette bascule de hasard. Non, mais c'est vrai, Bruno, que là, du coup, on a égrené quelques noms. On en a une dizaine. Ça va peut-être s'élargir à 15. Mais c'est vrai que les. On pensait qu'on aurait droit à un changement au niveau de l'effectif, etc., du groupe France. Ça risque de ne pas bouger là, d'ici l'Euro, puisque Laurent Blanc devait faire des tests lors de ces deux matchs là, de novembre, mais les matchs ont été tellement soporifiques que ça serait étonnant qu'il ait tiré quoi que ce soit et que des joueurs, aient, si ce n'est confirmé, se soient révélés. Quoi.
Oui, on risque d'avoir une liste des 23 qui ressemble effectivement pas mal à celle de 2010, avec bon, quelques changements quand même, mais effectivement, au niveau des cadres, on va retrouver à peu près les mêmes. Et donc, le gros brassage, là, puisque là, je crois qu'on en est à 45 joueurs testés par Laurent Blanc depuis l'été 2010, donc ça fait quand même beaucoup, hein, en une vingtaine de matchs, avec finalement, pour arriver à revenir quasiment au point de départ... Si on accepte, de nouveau, il y a Rami, Mvila.
Ouais, sauf que.
Access qui est revenu.
Il arrive, il sélectionne Ben Arfa, il sélectionne Waro. Ouais. Depuis, ces mecs-là, tu ne le vois plus, quoi.
Oui,
ça
oui,
a quand même changé un peu. Hein.
Sur blessure.
Finalement, son apport à lui en tant que sélectionneur, pour l'instant, est assez minime. Quoi. Au regard du nombre de joueurs qu'il a convoqués, il y a beaucoup, beaucoup de défaits. Et on a l'impression, voilà, c'est qu'il a. Il n'a pas beaucoup avancé depuis au moins depuis un an. Quoi. Voilà.
Oui, pardon, Bruno, vas-y.
Non, c'est bon.
Non, je disais justement, je trouve ça positif qu'il ait fait tous ces tests. Après qu'il ait trouvé personne, je trouve ça totalement, c'est un autre débat, mais totalement significatif du niveau actuel. Que, comme il l'a aussi dit cet après-midi, on est tellement loin des top nations européennes. Je trouve qu'un sélectionneur qui te dit, quand on lui pose la question, est-ce qu'on va gagner l'euro, que lui, clairement, te répond non, on ne gagnera pas, je trouve que c'est révélateur aussi. T'as l'impression, enfin, t'attends presque du sélectionneur qui te transcende tout le monde, même que ce soit les joueurs ou la foule ou les médias derrière. Là, le gars te plombe, te dit clairement, non, on n'a pas le niveau.
Il a quand même réveillé Benzema, l'émergence d'Mvila, Martin qui a été bon quand il l'a appelé. Il a quand même
quelques
Enfin, là, il déploie les parachutes, quoi, avec ses déclarations.
Oui, d'accord.
Mais c'est des tests, mais c'est pas concluant au niveau international, tout ça. Enfin, non, qu'il ait testé donc 45 joueurs, comme disait Bruno. C'est pas ça étonnant, mais sur les 45, effectivement, il n'y en a pas de convaincants, et je vois même pas, enfin, qui, on peut pas lui reprocher d'avoir fait ses choix, parce que tu voudrais trouver qui à la place en France en ce moment, un joueur français, enfin, je trouve qu'il faut.
Il y a des joueurs pas glamour qui ont jamais eu leur chance, je pense à Chantôme, je pense à Balmont. Enfin, ces mecs-là, dans notre milieu de terrain amorphe, ça pourrait être utile.
Enfin, un mec comme Chantôme, ouais. Tant qu'il ne s'impose pas à Paris, il n'aura aucune chance d'arriver en équipe de France.
Ouais, puis même Balmont qui s'impose déjà en Ligue des Champions, quoi.
Allez, au milieu de terrain, on a Cabaye et Martin. Hein. Ils n'ont jamais rien fait en Ligue des Champions. Hein.
Oui, ouais, oui, c'est pas mieux, certes.
Enfin, la marge de progression n'est pas la même pour Cabaye.
On a la Sanadiara aussi qui est pas loin.
Mais est-ce que pour faire un euro correct, on a encore le luxe de se payer des joueurs qui vont peut-être progresser dans les mois à venir?
La question, ça peut être, est-ce que l'objectif c'est de faire un bon euro ou est-ce que l'objectif c'est de travailler un peu à long terme? Ce qui a jamais été vraiment la stratégie en équipe de France, hein. Enfin, ou du moins. Je ne vais pas remonter à l'époque d'Hidalgo, mais enfin...
Tu maîtrises vraiment Domenech et son Euro 2008 qui préparait la Coupe du Monde, quand même.
Oui, enfin bon.
Non, mais puis je peux ajouter que le long terme, ce n'est pas dans la stratégie de Laurent Blanc en général. Donc,
Ça aide la montée.
Oui, non, mais tout à fait. D'ailleurs, c'est raccord avec le débat qu'il y a sur la prolongation de son contrat. Enfin, lui, visiblement, il voudrait prolonger avant l'euro. Le Grec ne veut pas, bon, parce qu'il je pense qu'il voit venir le coup. Quoi. Mais moi, ça me paraît logique qu'ils disent qu'on ne gagnera pas l'euro. Enfin, qui peut penser aujourd'hui que l'équipe de France a le niveau pour gagner l'euro? Elle a peut-être le niveau pour sortir du premier tour, et encore, il va falloir avoir un peu de sens. Mais après, c'est pas surprenant. T'es à un niveau très très bas en 2008 et 2010. Là, on revient à un niveau moyen, je dirais. Et dans le meilleur des cas, si tout se passe bien, on on arriverait à un niveau correct, enfin, ou intéressant en 2014, et peut-être avoir une bonne équipe en 2016 pour l'Euro qui se jouera chez nous, mais voilà.
L'objectif raisonnable aujourd'hui, ce serait de sortir des poules, en fait.
Oui, voilà.
Mais moi, je suis pas vraiment... Je pense pas que ce soit au sélectionneur de tenir un discours défaitiste.
C'est réaliste.
Non, mais même, c'est pas le boulot d'un sélectionneur de faire ce genre de constat. Là, quand il parle, on dirait un consultant.
Mais d'accord, mais est-ce qu'il est pareil dans le vestiaire, enfin,
je vois pas pourquoi.
Est-ce qu'on sait ce qu'il dit dans le vestiaire, finalement, Laurent Blanc?
Non, mais on sait pas. Mais le joueur, il sait aussi que Laurent Blanc pense ça. Si Laurent Blanc, il dit, mes joueurs, c'est des enfants, c'est un peu le discours qu'il a tenu aujourd'hui.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui.
Mes joueurs, c'est des enfants, on n'a aucune chance de gagner l'Euro, et je fais ce constat et j'en suis désolé.
C'est peut-être bêtement désespéré qu'il cherche à réveiller l'orgueil de ses joueurs, je sais pas.
Ouais,
j'imagine que lui aussi doit être terriblement déçu par les performances de l'équipe de France, donc même s'il cache ça sous il dit qu'il a eu des bonnes surprises, des joueurs ont confirmé leur potentiel. On a vu, moi, à chaque match, il a envie de se noyer dans les vestiaires, mais je suis pas sûr qu'il soit si défaitiste dans le vestiaire.
Le problème, c'est pourquoi être défaitiste devant les médias dans ce cas-là? Parce que le joueur, il peut aussi se dire ah tiens, dans les vestiaires, il nous dit qu'on va gagner l'Euro et il nous motive. Et après, dans les médias, il nous descend quasiment.
Ça, c'est pour avoir sa prolongation, comme disait Bruno.
Peut-être sa prolongation.
Ouais, peut-être.
Et à Leicester ou à Manchester.
Si tu dis à Le Graët, tu as un sélectionneur à prolonger, et ce sélectionneur, il dit partout qu'il va aller faire l'Euro, mais bon, je pense pas que ça aide Le Graët à lui proposer une prolongation non plus. Enfin, je vois pas si ce n'est sur le plan de sa communication et de pouvoir dire après, je vous l'avais bien dit. Je vois pas l'intérêt pour l'équipe de France de tenir ce genre de discours-là dans les médias.
Après, d'un autre côté, il serait jamais crédible. Imagine qu'ils te disent on va à l'Euro pour le gagner ou au moins jouer la finale et voilà, personne le prendra au sérieux. C'est pas
la finale, si. T'es pas forcément pire en 2006. On y est arrivé et Raymond a toujours dit qu'on gagnerait la finale et il avait toujours dit qu'on serait en finale en 2010.
En 2006, on avait des grands joueurs.
Oui, quand même.
Au début, non, avant qu'on les rappelle. Et Domenech avait déjà dit qu'on serait en finale quand même. Et on avait quand même un coach qui disait on va y aller, crédible ou pas.
On avait encore Vira, on avait encore Henry, c'était quand même autre chose aujourd'hui que nos milieux défensifs et nos attaquants. Il y avait quand même des grandes figures qui faisaient passer l'équipe de France pour une grande équipe, tu vois. Aujourd'hui, à part Benzema qui a un rayonnement international, quel joueur intéresse les grands clubs aujourd'hui?
Tu peux aller là. À part l'Espagne et l'Allemagne. Sur le plan du collectif, allez, les Pays-Bas aussi, on en a trois. C'est pareil un peu partout en Europe aujourd'hui.
L'Italie a un beau redressement quand même.
L'Italie a un beau redressement, mais là, on peut quand même le mettre bien sur le dos de Prandelli.
Ils ont aussi de grands joueurs. Pirlo, le jour où on aura un joueur du talent de Pirlo en équipe de France avant 2000, je sais pas combien, faudra me prévenir. Je trouve qu'on a un très faible réservoir finalement par rapport aux autres pays européens aujourd'hui.
Nos résultats, notamment chez les espoirs depuis des années, je trouve révélateur du truc d'ailleurs.
Je pense qu'on a une bonne équipe là en espoir. On commence à tenir quelque chose. Ils ont gagné leurs 5 matchs de qualification. Ils jouent bien. Ils font vraiment plaisir à voir. Il y a des bons joueurs. Après, c'est à confirmer parce qu'évidemment, les espoirs qui n'ont jamais abouti, c'est pas difficile d'en trouver. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là aussi, je ne sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas partir avec un renouvellement un peu plus radical et se dire travailler sur 4 ou 5 ans. On sait bien qu'on dit qu'on ne travaille jamais sur le long terme, mais il y a d'autres équipes qui l'ont fait avant.
Je vois Laurent Blanc travailler sur le long terme s'il n'est pas prolongé aussi. Non, mais
de toute façon, tu ne peux pas dire ce qu'avait dit Domenech en 2008. On va à l'Euro, qui est une compétition majeure, qui est peut-être la compétition la plus relevée qui est la compétition la plus relevée au monde aujourd'hui.
T'es pas obligé de le dire officiellement et de le dire comme ça.
Tu peux pas te permettre une compétition majeure de la faire pour préparer une compétition qui a lieu 2 ans après. Je pense pas que ce soit.
Mais il faut être pragmatique. On n'a pas le niveau pour gagner l'euro et je pense qu'on l'aura pas dans 6 mois et qu'on l'aura pas dans 8 mois. Donc.
Non, mais on l'aura pas. Mais
à moins qu'on se voile la face à se dire on va faire une demi-finale, on va faire une finale, on va gagner. Je préfère encore qu'on soit conscient de nos capacités actuelles et qu'on se dise bon bah tentons de préparer peut-être plus loin pour avoir plus de chance en 2014 et pas griller un euro comme ça et repartir dans, une spirale négative avec des résultats pourris.
Ouais, enfin, la dernière fois que ça a été fait, c'est une catastrophe tant à l'euro qu'à la Coupe du Monde. C'est comme ça que ça s'était passé. Donc je vois pas l'intérêt de tenir d'abord ce discours-là de constat. Quand on est sélectionneur, à un moment donné, qu'on soit favori ou qu'on soit complètement outsider, la chose à faire, c'est d'arriver à transcender les joueurs. Quand tu tiens ce genre de discours pendant 6 mois que tu le martèles, tes joueurs seront jamais prêts au mois de juin à franchir un cap et à se transcender sur une compétition. Des équipes, je dis pas que les Français vont gagner l'Euro, je le pense pas. Je doute même aujourd'hui qu'il passe le premier tour. Mais moi, je suis pas dans l'équipe, donc je peux le dire. Je pense pas que ce soit un discours qui soit à tenir pour un sélectionneur ou un responsable ou un adjoint ou quoi que ce soit.
Alors, est-ce que ça voudrait pas dire aussi, puisque bon, toi, tu l'as pratiqué de près à Bordeaux, quand il était à Bordeaux, est-ce que ça veut pas dire qu'il est en train un petit peu de préparer sa sortie et donc de se dire que c'est bloqué pour lui, que le renouvellement de son contrat, il y a peu de sens qu'il est, il a demandé à ce que la dernière journée du championnat soit déplacée, ça se fera pas, il y avait cette histoire de prime là pour le staff technique, enfin pour le personnel là, qui entoure l'équipe de France ou... Ça n'a pas marché non plus. Enfin, visiblement, ils se retrouvent un petit peu dans une impasse. Et au niveau du jeu, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a eu des histoires avec les joueurs, enfin, notamment entre Malouda et Ribéry, des histoires d'agents avec Bernès, cette histoire de Cota aussi il y a quelques mois. Enfin, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il est en train, en quelque sorte, un peu de lâcher prise comme il avait lâché les 4 derniers mois qu'il a passé à Bordeaux et qu'il sait que. Qu'il a en fin de parcours. Quoi.
Non, lâcher prise, je sais pas. On va encore revenir sur Bordeaux, mais avec Bordeaux, la manière dont ça s'était passé, c'était pas très compliqué. Nous, enfin, en tant que supporter bordelais, on l'a mal vécu, etc. Tout ça. Lui, il est parti parce que les dirigeants répondaient pas à ses demandes. On va pas juger est-ce que les dirigeants avaient tort ou Laurent Blanc avait tort. C'est pas le propos. Peut-être qu'aujourd'hui, il se retrouve en effet dans la même situation où il sent que autour de lui, dans la FFF, etc., et ben peut-être qu'il sent les mêmes choses, et que les gens ne sont pas d'accord avec lui, etc. Et que oui, il se dit peut-être que son temps est terminé. Et il se dit peut-être aussi que s'il se viande à l'Euro sans avoir, on va dire, préparé le terrain, comme il le fait quand même aujourd'hui en ce moment sur le plan de la com, peut-être qu'il aura du mal à trouver le grand club dont il rêve depuis qu'il a débuté sa carrière. Parce que je rappelle que son plan de carrière, c'était... Bordeaux, un grand club, l'équipe de France. Et après, il est revenu puisque l'équipe de France est venue avant, donc il a pris l'équipe de France avant. Sauf que trouver un grand club après s'être viandé avec l'équipe de France, je pense pas que ce soit la chose la plus facile possible pour un plan de carrière personnel. Donc oui, il ouvre certainement les parachutes aujourd'hui. Après, la manière dont il va atterrir, lui... On verra la manière dont atterrira l'équipe, ça sera déjà un peu plus intéressant à suivre, quoi. Voilà.
Mais concernant sa demande sur la dernière journée de Ligue 1, de l'avancer pour avoir plus de temps pour préparer, moi dans cette idée-là, je serais plutôt avec lui en fait. Parce qu'on a tellement de mal déjà à faire jouer une équipe, si on n'accorde pas plus de temps à l'équipe nationale pour bien figurer à l'Euro, je vois pas à quoi servent les équipes nationales finalement.
Ah oui, ça, mais le truc c'est qu'il s'est pas heurté à un refus de la Ligue, d'après ce que j'ai compris. C'est un refus de Canal+. C'est
Canal qui a refusé.
Voilà.
Et justement, il me semble que la Ligue voulait essayer
de négocier avec Canal encore, mais c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais il me semble avoir, avoir lu ou entendu ça ces derniers
mais jours. Canal+, est-ce que ça leur profiterait pas si l'équipe de France était meilleure et allait plus loin?
Bah non, ils diffusent pas.
Oui, d'accord, mais ils font des émissions, ils font des spécialistes, ils ont fait, ils avaient pas les matchs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, mais ils faisaient le Canal Football Club. Je sais même pas s'ils ont des matchs de l'Euro en fait.
Je sais pas non plus s'ils en ont cette année.
Voilà, ils auront sûrement des émissions. Ça, je pense que oui, ça les aiderait quand même que l'équipe de France aille loin. Et
ouais, mais ça leur apporte moins que la Ligue 1.
Ouais, voilà, même s'ils ont
l'intérêt. Et le multiplex de la dernière journée,
voilà,
comme il disait, tu vas pas le foutre un mercredi ou un jeudi. Je comprends la logique. Après,
effectivement,
il faut voir où sont les priorités. Quoi.
Alors, j'avais entendu aussi qu'il avait demandé à ce que les deux matchs amicaux qui viennent de jouer, ils se jouent plutôt à l'étranger contre des grandes équipes et que Le Graët n'avait pas voulu aussi. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, il a été un petit peu désavoué aussi là-dessus. Et là, à la limite, on pourrait se dire que les faits lui ont donné raison, puisque du coup, il s'est retrouvé contre deux adversaires pas très prestigieux, deux matchs à domicile et une motivation pas terrible et des résultats pas très bons. Alors, je ne sais pas si effectivement il avait fait cette demande-là et si elle n'a pas abouti et pourquoi.
Ouais, et là, on va accueillir Vincent, là, qui va pas tarder à arriver normalement. On va pouvoir lui demander son avis sur l'équipe de France et puis après, on passera à un petit tour d'Europe, un petit peu des résultats, ce qui s'est passé. Quel est votre favori à 6 mois de l'Euro? Qui est-ce que vous voyez comme la grosse équipe, comme ça je pourrais vous placer des choses sur l'Allemagne. Donc voilà, le problème c'est que Vincent ne répond pas. S'il est là,
je ne
sais pas s'il est là.
Hello.
Ah ben le voilà.
Bonsoir, désolé Vincent. Les gars, vraiment désolé, c'est super, je rentre à l'instant. Vous allez bien?
Ça va.
Bien. Tu es en train de parler de ce grand joueur Bakary Sagna, non je rigole.
Ah c'est bien, on arrive tout de suite là, vous me prenez à froid, pas de soucis, moi je suis chaud. Là. À parler de Kermalen et de Koscielny aussi.
Non.
Et de Szczęsny qui sera le meilleur joueur de l'Euro 2012.
Comment tu dis?
Szczęsny. Voilà, lui-même.
Tiens, Florent, t'as pas aimé Vermaelen hier?
Non, mais comment ça? Non, j'ai pas regardé le match hier, c'est différent. Non, on était juste sur l'équipe de France. On allait terminer justement sur l'équipe de France. Donc, si tu veux dire quelque chose sur l'équipe de France, sur ce qui l'attend l'année prochaine ou sur les deux derniers matchs, c'est le moment ou jamais, puisqu'après, c'est fini pour un bon bout de temps, l'équipe de France.
Je vais peut-être prendre un peu de temps, d'autant que vous n'avez pas de bol. J'ai lu l'équipe ce matin.
Tu n'as pas de bol non plus.
Aïe. Voilà. Non, mais en fait, j'ai lu la première page et après j'ai arrêté, quoi, parce que c'est juste pas possible. Donc je suis un peu fâché, encore plus fâché que d'habitude contre l'équipe et la façon
dont
ils parlent de. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais enfin, même l'équipe de France, ils sont pas capables d'en parler correctement. C'est quand même incroyable, quoi. Je pense que ça va transparaître quelque peu dans mon propos, mais je vais essayer de faire court. Donc je veux bien, ouais, si t'as un créneau pour moi, et puis après on passe à autre chose. Quoi.
Mais vas-y. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette première page?
Alors non, l'édito de l'équipe de ce matin concernant le parcours de l'équipe de France, où en gros j'ai retrouvé un petit peu l'espèce de discours négatif et limite polémiste concernant en gros le titre c'est quand est-ce qu'on progresse et j'ai trouvé ça affligeant de nullité. Ça apporte rien au débat, encore une fois, et ça me fait penser au titre, au fameux titre de l'ère Jacquet, au début de l'année 98, quand Jacquet avait donné sa liste, enfin avait commencé à esquisser sa liste, et où l'équipe avait titré, et maintenant on joue à 15. Et enfin voilà, c'est le genre de jugement péremptoire qui sert à rien, de dire que l'équipe de France a pas progressé cette année, je trouve ça d'une part, enfin malhonnête et faux. Alors ouais, c'est complètement erroné de dire ça, quoi. Cette équipe, elle a progressé déjà dans le collectif, moi je trouve. Alors pour revenir sur les deux derniers matchs, c'est des matchs amicaux.
Ouais, mais les deux matchs d'avant, c'est des matchs qui comptaient, et les deux matchs d'avant, c'est des matchs qui comptaient aussi.
C'était pareil. Voilà, on s'est qualifié. Après, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, repartir sur une équipe qui était sinistrée avec des mecs.
On s'était qualifié parce qu'on pouvait battre ces équipes sans bien jouer, sans être intéressant collectivement, alors que
dans l'histoire de
forcément être intéressant collectivement.
Ouais, dans l'histoire de l'équipe de France, on a aussi des fois pas su se qualifier contre des équipes où on n'avait pas besoin de jouer. Bruno m'en était moins, on en parlait la dernière fois. Hein. Mais non, moi
Gérard Rouillet, si t'écoutes.
Oui, voilà aussi. Mais en l'occurrence, moi, l'équipe de France aujourd'hui joue pas. C'est pas l'Espagne, c'est pas le Brésil. On est d'accord. Il y a encore plein de choses à corriger, plein de choses à améliorer. Maintenant, il faut quand même voir d'où est-ce qu'elle est partie cette équipe de France. Donc, moi, je trouve que déjà le match contre, j'ai trouvé le match contre la Belgique très intéressant, contrairement à ce que je vois passer ici ou là. Ça, on a l'impression que c'était une catastrophe. Moi, j'ai pas trouvé ça négatif, notamment la deuxième mi-temps. Alors évidemment, je vais juste revenir sur 2-3 points. Il y a notamment la défense. Je ne vais pas vous cacher, c'est un secret pour personne, que j'ai préféré voir l'association Rami Koscielny contre les États-Unis. Maintenant, comme j'aime bien Sacco, et que hier j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, je ne vais pas l'enfoncer, c'est pas le but. Moi, j'ai trouvé qu'il s'en sortait plutôt pas mal. Moi, je pense que le problème, c'est Rami. Je pense que vous en avez certainement parlé avant, mais parce que le problème, c'est Rami et qu'il faut rattraper les erreurs de Rami. Que pauvre Sacco, c'est pas la première fois que en tout cas, que je le remarque.
Il a déjà rattrapé les erreurs de Zoumana Camara au PSG.
Voilà.
Il est habitué.
Il commence à avoir l'habitude, mais bon, il est encore jeune et c'est pas très très facile pour lui. Donc, on a vu hier durant le match qu'il a fait ce qu'il a pu, Sacco, mais que voilà. Donc, je pense que l'association n'était peut-être pas bien pensée dans ce sens-là. Par contre, l'association avec Koscielny, entre Rami et Koscielny, a été vraiment très intéressante vendredi contre les États-Unis. Donc, Koscielny, pour moi, a largement sa place en équipe de France, même à la rigueur associée à un excès, ça me choquerait pas de le voir.
A priori, ça serait ça, hein, puisque on en parlait tout à l'heure, ouais. Laurent Blanc fait de Mexès un de ses piliers malgré la blessure, comme il le fait avec Diaby au milieu de terrain.
De toute façon, ce seront les quatre, non? Rami, Koscielny, Sacco, Mexès.
Ouais, sauf blessure ou nouveau qui sort du bois, mais bon.
Ouais, ou résurgence des gens à l'Amboisson.
Non, ou alors si Del Perrier.
Raphaël Varane, sur son
début. Voilà, Raphaël Varane, enfin, il est assez ridicule, Del Perrier. J'ai écouté l'autre avec les espoirs. C'est pas un génie, Varane, c'est un mec qui est doué, mais il faut le laisser un peu grandir, quoi. Il faut lui foutre la paix. Il raconte n'importe quoi, Del Perrier. Enfin, bon, bref, Varane aura un âge peut-être en 2014, mais pour l'instant, je pense que oui, les quatre sont là, t'as tout à fait raison. Genre. Alors après, sur les côtés, je vais pas repartir dans un débat, xième débat sur le côté droit. Moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'il y ait de la concurrence et des bons joueurs, donc on est tous d'accord.
Ça change de Sagna, on est d'accord.
Ça change de Sagna, mais Sagna c'est un titulaire en
puissance. Il sera là.
Voilà. Je pense que celui qui va vraiment avoir des problèmes, c'est Réveillère.
Mais je pense personnellement, puisqu'on reprend ça, je pense que sur les côtés, par contre, la hiérarchie a bougé, et je ne serais pas étonné que ce soit Mathieu et Debuchy qui aillent à l'Euro plutôt que Réveillère et Evra.
Ah, si Evra pouvait partir.
Mathieu m'a fait une excellente impression contre les États-Unis. Moi, je l'ai trouvé très bon, très concentré. Il a un super pied gauche. Ça, on le savait. Il a eu pour lui le malheur d'être blessé très souvent à chaque fois où il aurait pu être appelé. Et là, enfin, on a pu le voir. Et moi, j'ai pas été déçu du tout. Et Debuchy a largement sa place dans ce groupe. Il peut tout à fait. Debuchy est un excellent joueur. Il a une qualité de centre, c'est vrai, supérieure à celle de Sagna. J'ai pas honte de le dire. Ça me pose pas de problème. Seulement pour moi, Sagna. Par le passé, on a gardé des croûtes titulaires sous prétexte de l'ancienneté. Sagna a rendu largement. A énormément rendu de service à l'équipe de France. Il est régulier, c'est un des meilleurs défenseurs d'Angleterre, donc sa place, il la mérite aussi. Quoi. Voilà. Maintenant, Debuchy, c'est un super joueur et il peut tout à fait aller pousser Sagna et essayer de lui piquer sa place. Et ça, c'est une très bonne émulation. Et puis à gauche, moi, je vois tout à fait Abidal-Mathieu, ça tient la route. Quoi. Ça tient la route. Alors après, pour le reste, bon. En milieu de terrain, j'ai plutôt trouvé que c'était intéressant, même si là c'était un petit peu quand même compliqué, notamment sur le pressing contre le pressing des Belges. Ouais. Et devant, bon, moi je pense que Rémi est au-dessus du lot. Je vais pas de nouveau rattaquer Benzema parce que, enfin voilà, de toute façon c'est peine perdue. Mais Benzema ira à l'Euro et c'est normal. Enfin voilà, il joue dans un grand club, il est exposé. On lui pardonne
très bon,
certaines choses. Ah, ouais, il est bon. Mais pour moi, Rémi, sur les derniers matchs, a plus prouvé à la limite que Benzema. Voilà.
Oui, il est en train de franchir un palier, comme on dit.
Voilà, et ça se voit, c'est clair maintenant.
Je suis pas sûr qu'il concurrence le même poste en fait, Rémi.
Non, Rémi jouera à droite. Dans
l'esprit de Laurent Blanc, Rémi, c'est un joueur de côté.
Et je pense
que Rémi Ménez, ça peut faire des trucs pas mal.
Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Giroud. Vraiment. Oui. Ce mec, il est rentré, il s'est pas posé de questions. Alors il y a son petit loupé contre les États-Unis, ouais, voilà, il a l'occasion au bout du pied, bon, il hésite, il l'a dit après, il s'en veut. Ce mec-là, faut absolument le prendre, quoi. C'est obligé. Enfin, tu vois tout de suite que il a du ballon, qu'il va apporter. C'est un joker, c'est un super joker, je trouve. Moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce qu'il a apporté, même si sur peu de temps de jeu qu'il a eu, il est arrivé à apporter quand même des situations. Et un dernier petit mot sur Cabaye, parce que moi, j'ai bien aimé Cabaye. C'est un mec qui est vachement lucide dans son analyse de match. Je l'écoutais parler l'autre fois, et ça fait plaisir d'entendre aussi un footballeur qui sort pas des banalités.
Ouais, qui va se faire bisuter comme Gourcuff après.
Mais en l'occurrence, il a une analyse, un recul vraiment très intéressant. Il se met au service du collectif, même s'il est pas forcément bien physiquement, même si voilà, il trouve toujours comme le moyen d'apporter. Donc c'est pareil, c'est un mec de devoir, ce mec-là. Donc faut absolument, c'est des mecs dont on a besoin en équipe de France, quoi. Voilà, il y en a un peu marre des divas, tout le monde a pleuré après la Coupe du Monde 2010, qu'on avait des divas, des mecs qui savaient pas, enfin voilà. Là, on a des mecs de devoir, Debuchy, c'est pareil, enfin voilà, Debuchy, Cabaye, Giroud, voilà, des mecs qui jouent au foot et qui ont envie d'apporter quelque chose. Donc, moi, cette équipe de France, je la condamne pas, moi, je trouve qu'elle a progressé, voilà. Contrairement à ce que pensent certains observateurs, moi, je trouve qu'il y a plein de choses positives dans cette équipe et qu'en plus, il y a des mecs qui sont blessés, qui vont revenir. Donc, on parlait tout à l'heure des mecs, effectivement, Florent a parlé de Diaby, puisque Laurent Blanc en a parlé aujourd'hui, en disant que s'il est, il le considère comme un titulaire en puissance, c'est que s'il revient de blessure, et qu'il fait une bonne deuxième partie de saison, il sera titulaire à l'Euro, ce qui est à mon sens, très positif pour lui, et de toute façon, on sait que Diaby peut apporter énormément à cette équipe de France. Voilà, pour moi, messieurs, j'en ai terminé.
Bon, ben voilà, ça fait un son de cloche un peu différent de ce qu'on avait dit jusqu'ici.
Je n'ai pas été influencé. Hein.
Ça équilibre. Bruno, quelque chose à rajouter sur l'équipe de France? Et après, on fait un petit couplet sur ce qui se passe en Europe.
Non, rien à rajouter, c'est bon.
Ludovic, Raphaël.
J'ai dit Bruno, en fait. Excuse-moi, Bruno.
Non, c'est bon.
C'est bon, c'est bon.
Ok. Bon, ben, on va finir sur. Donc, on est à 7 mois de l'Euro, 6 mois, je sais plus. Novembre, juin, 7 mois. Avec quelques jours en plus ou en moins, je sais pas. Donc, hier, pour ceux qui n'ont pas suivi les matchs amicaux et qui nous écoutent, eh ben, l'Allemagne a fait une grosse démonstration face aux Pays-Bas, victoire 3-0. Pendant ce temps-là, l'Espagne enchaîne les matchs nuls et les mauvaises performances en amical avec un 2-2 au Costa Rica avec un super but de Joel Campbell.
J'allais en parler, merci.
Et puis sinon, l'Italie, qui avait fait une bonne campagne jusqu'ici, a perdu face à la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, qui est l'Uruguay. en tout cas, une des plus belles nations à voir. Et voilà. Donc,
il y a la République tchèque aussi qui a
battu le Monténégro.
Il y a battu la Bosnie 6-2. Ouais.
Et le Portugal qui a mis 6-2 à la Bosnie. Donc voilà, on a tout ça. On a un tirage au sort de l'Euro dans 2 semaines maintenant, c'est le 2 décembre prochain. On a les chapeaux, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Mais bon, de toute façon, les histoires de chapeaux, le chapeau 4 est peut-être supérieur en qualité au chapeau 3, par exemple. Donc. On verra le tirage, d'autant plus que le chapeau 1, il y a quand même la Pologne et l'Ukraine dedans qui sont a priori pas forcément chapeau 1, façon Afrique du Sud, Coupe du Monde 2010. Mmh. Donc voilà, donc Bruno, à 7 mois de l'Euro, est-ce que tu as une idée, pas forcément sur le vainqueur, mais sur les équipes qui débuteront la compétition avec le statut de favori? Même si on sait qu'à l'Euro, il y a souvent des surprises qui arrivent à faire leur chemin jusqu'en demi-finale à peu près, puisque lors de la dernière édition, c'était autour de la Turquie, qui n'y sera pas cette fois.
Oui. Moi, je pense que l'Espagne n'ira pas au bout cette fois-ci, parce que j'ai l'impression qu'ils sont... ils commencent un peu à baisser. Bon, ils perdent quand même pas mal de matchs, même si c'est que des matchs amicaux. Je les vois pas réussir le triplé. Là. À mon avis, ils sont un petit peu en bout de course. Après, on se souvient des problèmes de motivation qu'il peut y avoir dans des équipes de ce niveau-là. Hein. On l'a bien vu en 2002 avec l'équipe de France. Donc, je dirais l'Allemagne, mais l'Allemagne, à la limite, ils sont un peu trop favoris pour l'instant et c'est pas sûr qu'ils aillent au bout. En 2010, ils avaient fait une très belle Coupe du Monde et puis ils étaient un peu passés à travers sur leur demi-finale contre l'Espagne. Est-ce que là, ils feront mieux? On verra. L'Italie est quand même en progression. Les Pays-Bas, bon, ils ont pris 3-0 hier soir. C'est peut-être un peu dur pour eux, mais je pense qu'ils valent mieux que ça. Il n'y a pas vraiment de gros favoris. Je pense que ça peut être assez ouvert. Après, il y a des équipes comme la Croatie qui peuvent faire quelque chose aussi. La Russie, pourquoi pas. Ça va se jouer à très peu de choses entre 4 ou 5 équipes. Bon, pas avec l'équipe de France, contrairement à ce que dit Vincent. Enfin, on en a discuté tout à l'heure, on se demandait si l'équipe de France pouvait avoir des ambitions pour 7 euros. À mon sens, non. Enfin, après, si déjà elle fait un bon premier tour et qu'elle sort du premier tour proprement, ce serait déjà.
Raphaël, tu parlais de l'Angleterre, toi?
Ah oui, non, mais comme outsider, en fait, en dessous d'Allemagne et d'Espagne. Non, moi, j'ai pas vraiment de favori, j'ai pas pronostiqué parce que je suis très mauvais à ce jeu, mais j'ai un préféré, ce serait l'Allemagne. Parce que moi, je suis tombé amoureux de l'équipe d'Allemagne avec l'Allemagne-Australie de la Coupe du Monde. Et j'en ai un peu marre du jeu espagnol, en fait, du jeu barcelonais, il commence à me fatiguer. Même si j'adore aller voir jouer, j'ai adoré le jeu allemand et je voudrais qu'il gagne l'Euro pour que ça influence un peu tout le football européen, comme l'a fait le football espagnol en 2008 puis en 2010.
Moi personnellement, j'ai une théorie sur l'Allemagne. Pour moi, c'est dans les années 80, c'était eux qui gagnaient toujours à la fin. Pour moi, c'est les losers magnifiques de la décennie. Ça va être parce que j'avais. Déjà, on l'avait déjà noté lors de la dernière Coupe du Monde, et notamment ce match contre l'Espagne, c'est une équipe qui punit son adversaire en contre-attaque. Mais si l'adversaire a la maîtrise technique et a les qualités pour ne pas faire d'erreur, il finit tout le temps par trouver la faille, parce que la défense allemande n'est pas non plus imprenable. En général, les Allemands, ça se passe bien pour eux quand ils démarrent bien le match.
Ouais, quand ils mènent au score rapidement.
Quand ils mènent au score rapidement et après ils déroulent parce qu'en contre ils sont
exceptionnels. Par contre, ils ont les armes pour mener au score rapidement. Non, quand même.
Ouais, voilà, est-ce que l'Espagne est toujours capable de les dominer aussi fortement alors que pour moi l'Espagne descend alors que l'Allemagne monte? Quand tu vois comme a progressé un Özil ou les mecs qui arrivent de Dortmund, les Götze, etc. Je les vois mal être dominés comme en 2010 par l'Espagne.
En même temps, Dortmund, tu vois leur début de saison à Dortmund, c'était quand même assez compliqué. C'est pareil, il y a un cap.
Ils sont bien revenus.
Non, mais ils sont bien revenus. Il y a un cap à passer, je pense.
Il suffit de voir leur match en Ligue des Champions à Dortmund. Ils n'arrivent pas à franchir ce cap-là face à des équipes expérimentées.
Pas encore.
Le 3-0 qu'ils ont pris contre Marseille, c'était une blague à voir. C'était une blague ce match. Ils avaient le ballon. Sauf que du coup c'était eux qui faisaient les erreurs.
Quand tu additionnes aux joueurs de Dortmund des Schweinsteiger, des Klose, des Podolski qui est anormalement bon dans les compétitions, des joueurs comme ça, je pense que vraiment il peut y avoir une alchimie géniale et ils ont écrasé les Pays-Bas.
Attention, parce que je reviens sur ce match là parce que c'est pareil, ça m'a pas mal fait sourire les commentaires. Déjà, ça reste un match amical avec une équipe des Pays-Bas qui était certainement pas l'équipe type. Je vais pas en rajouter une couche, mais John Percy par exemple n'a pas été aligné. Concrètement les Pays-Bas jusqu'à les dernières compétitions, en général ils éclatent tout le monde en match de préparation, en match de qualification, en match amical, en tout ce que tu veux. Et puis ils arrivent à la compétition, ils sont à moitié cramés ou alors ils n'y arrivent plus. Ils perdent un match amical contre une grosse équipe. Je pense qu'ils ont pas voulu donner tout ce qu'ils auraient pu donner les Pays-Bas. Je dis pas que les Allemands. Les Allemands ont très très bien joué, ont fourni un super match. Il n'y a pas à dire. Mais je pense que se fixer comme base ce match amical, cette défaite pour définir ce qui pourrait être les performances des uns et des autres pendant l'Euro, je pense que ce serait une erreur. Et qu'à mon avis, les Pays-Bas, ils vont certainement être beaucoup plus présents que ce qu'on peut l'imaginer.
Je dis pas que les Pays-Bas sont mauvais, je dis que l'Allemagne est bonne. Voilà.
Mais l'Allemagne est très bonne. Je suis totalement d'accord. Moi, je pense qu'on a, hier, on a eu les deux finalistes.
Ludovic.
Pareil, en ce sens que je dégage pas un favori. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que cet Euro va ressembler à l'Euro 2004. Ça sera pas la Grèce à la fin, mais ça sent entre guillemets la fausse équipe.
Genre l'équipe de France.
Le Danemark.
Ou l'Ukraine, ou je sais pas. Mais non, sinon j'aimerais que ce soit l'Angleterre. Parce que j'aime bien cette nouvelle génération. Parce que voilà, Capello a réussi à créer un truc, il va partir après ça. Et voilà, je trouve la jeune génération anglaise pas mal. Pour ce qui est de l'Espagne, c'est pareil, ça fait déjà quelques temps que je trouve aussi qu'ils sont sur la pente descendante. Pour ce qui est des Pays-Bas et de l'Allemagne, je rejoins, enfin, surtout pour l'Allemagne, d'après ce que tu as dit Flo, je rejoins ton avis sur les Beautiful Losers. Ils jouent bien, ils produisent du beau jeu, mais à mon avis, ça ne gagnera pas plus que les Pays-Bas ne gagneront.
Ouais.
On verra le tirage au sort ce que ça donne, voilà, mais je les vois bien justement s'affronter genre en quart de finale ou en demi assez tôt dans la compétition et finalement sortir assez tôt quoi. Mais je vois bien l'Angleterre en finale, l'Italie pas loin, le Portugal, mais que ce soit les Allemands, les Hollandais, les Français, car je crois qu'on va sortir des poules aussi. Je pense que tout ça, ça va gicler dès l'écart de finale. Quoi.
C'est vrai que moi, si je dois résumer ma pensée, l'Allemagne peut battre n'importe qui, sauf l'Espagne, que j'enterre pas, que je vois pas sur la pente descendante comme vous. Je pense qu'ils ont simplement énormément de mal à se motiver pour des matchs amicaux. Moi, quand je vois, là, par exemple, le but que prend Iker Casillas face au Costa Rica... c'est pas sérieux, c'est pas sérieux du tout. Il veut sortir pour normalement n'importe quel gardien dans un match normal aurait dégagé, et il part pour dégager et puis il veut contrôler au dernier moment et le ballon lui passe entre les jambes et après l'attaquant du Costa Rica fait un très beau lob pour finir le boulot. Mais voilà, c'est le genre d'erreur. L'Espagne à l'Euro, elle la fera pas quoi. Casillas ne fera pas cette erreur à l'Euro. Ou du moins j'espère pour lui, parce que sinon ça va mal se passer, c'est vrai. Mais non, je pense que l'Espagne sera toujours au rendez-vous, toujours dans son style différent des autres et donc chiant à jouer pour n'importe quelle autre équipe. Mais c'est vrai que après tout dépendra du tirage au sort, l'Allemagne peut battre, je le redis, n'importe qui sauf l'Espagne pour moi, au niveau du style de jeu, etc. Et après, comme Ludo parlait de l'Angleterre et de l'Italie, pour moi c'est les deux inconnus, parce que je les ai pas vu jouer, vu que la seule équipe d'Angleterre que j'ai vue c'était l'équipe W face à l'équipe de France, donc voilà, donc on verra. Je laisse la parole à Bruno là-dessus, puisqu'il va pas tarder à nous quitter. Si tu as quelque chose à rajouter avant de nous laisser terminer ce podcast, Bruno, c'est le moment.
Oui, ben je sais pas trop ce que ça peut donner. On est loin encore de l'Euro, hein. C'est difficile à dire. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Il peut y avoir des blessés. Il peut y avoir l'expérience nous montre que souvent il y a des joueurs aussi qui se révèlent dans les 3-4 derniers mois avant une grande compétition. Walter Ribéry en 2006, des joueurs comme ça. Donc c'est très tôt encore pour savoir comment ça va se passer. Voilà, moi je pense qu'il peut y avoir des surprises, effectivement. C'est un Euro qui va être assez équilibré, assez serré. Il ne manque pas de grosses équipes, hein. Tout le monde
est là.
Tout le monde est là. Les pays organisateurs, bon, aussi bien la Pologne et l'Ukraine, je ne les vois pas faire grand-chose. Donc du coup, ça laisse quand même de la place pour les autres. Voilà, moi j'aimerais voir aussi de nouvelles équipes. C'est vrai que... Je crois que c'est Vincent tout à l'heure qui disait qu'il avait un petit peu marre du jeu espagnol et tout. C'est vrai que oui, l'Allemagne a un beau jeu, et puis voir un peu de nouvelles têtes aussi et de nouveaux styles de jeu, et puis peut-être que ça nous inspirera aussi par la suite, tout excellent et tout prometteur que nous sommes.
Voilà. Vincent,
Oui, bah, je rejoins quand même évidemment Bruno. C'est vrai que ça serait bien que ce soit aussi un euro qui permette un petit peu de renouveler certaines choses. Bon, je suis un peu comme toi, Florent. Je vois pas les Espagnols complètement lâchés comme ça d'un coup d'un seul. Ils ont tellement ramé pendant des décennies pour arriver à ce niveau-là qu'ils vont certainement pas laisser filer des titres alors qu'ils ont encore, je pense, cette sélection. Quand tu vois surtout les jeunes qui arrivent derrière, il y a de quoi faire pendant encore quelques années avec l'Espagne. Hein, faut pas croire. Moi, pour revenir rapidement juste sur l'Angleterre, parce que c'est vrai que je les suis un petit peu forcément, et y compris les équipes de jeunes, selon certains, vont probablement intégrer le groupe en fonction de ce qu'aura envie de faire Capello, en fonction des blessés aussi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une arrière-garde qui est vieillissante d'un côté, parce que s'imaginer repartir avec Terry Carragher, enfin, je ne veux même pas imaginer le massacre, ce qui voudrait dire qu'on aurait très certainement Jones, Smalling, etc., qui sont globalement des bons joueurs, mais qui manquent encore cette étape-là vraiment décisive, qui sont pas très très bien préparés, il faut le dire. Les U21 anglais sont dirigés par Stuart Pearce, qui est une catastrophe en tant que sélectionneur.
Il y a quelqu'un aussi en défense centrale.
C'est juste que il n'arrive pas à faire jouer un groupe de jeunes joueurs qui est pourtant très très bon, avec des mecs comme Henderson, avec des mecs comme Lansbury, il y avait de quoi faire avec cette équipe de U21 anglais pour les préparer à quelque chose, et c'était de la confiture pour les cochons. C'est le problème de l'Angleterre, encore une fois et toujours. Voilà, ils ont la chance énorme d'avoir un monument comme Capello comme sélectionneur, et trouvent le moyen de lui chier dans les bottes un coup sur deux. Je ne sais pas s'ils vont arriver à une nouvelle fois à briser le signe indien, d'autant qu'il y a la fatigue du championnat qui va s'accumuler aussi. Il y a des joueurs comme Wilshere qui seront très probablement revenus.
Il sera très frais,
et puis il va piaffer d'impatience parce que ça joue beaucoup
sur les derniers euros, la fraîcheur des équipes. Et c'est vrai que
lui sera frais, mais Rooney ne le sera pas.
Rooney sera frais pour les quarts.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, mais oui, pour les quarts, puisque de toute façon ils ont fait appel, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a des mecs comme Ashley Young, ils vont peut-être prendre des mecs comme Defoe, je peux pas. Enfin, Carole ne prouve absolument rien à Liverpool pour l'instant. Je suis désolé, Raphaël. Je remets ça sur le tapis. Mais Carole, pour l'instant, c'est un mirage. Donc, je ne vois pas ces mecs-là là sur cet Euro. Après, il y a une qualification pour la Coupe du Monde 2014 qui sera peut-être compliquée, mais qui pourrait être intéressante pour eux, parce que cette équipe, elle a encore besoin de grandir. Il y a une génération. Si Capello s'en va après derrière, ça risque d'être compliqué.
Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas avant de clôturer?
Un dernier mot. J'espère que la Croatie ira loin pour voir jouer Luka Modric, dont j'étais tombé amoureux en 2008.
Ouais, moi aussi. C'est vrai, la Croatie, la Russie aussi, hein, qui est qualifiée, qui peut faire des choses. Oui. Et il faudra suivre aussi, puisqu'on en est aux joueurs dont on est tombé amoureux, il faudra suivre l'Ukraine, qui a fait, on n'en a pas parlé, un 3-3 face à l'Allemagne. Vendredi dernier, du coup, mais bon, c'était un peu spécial parce que l'Allemagne, d'après ce que j'ai pu lire, a inauguré une défense un peu inédite, puisqu'il y avait que trois défenseurs centraux, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais j'ai rien vu du match, donc j'ai peut-être une bêtise, c'est possible. Et donc, en Ukraine, un joueur qui s'appelle Konoplyanka, que j'avais découvert au moment où l'équipe de France galérait pour se qualifier pour l'Euro Espoir, et c'était Konoplyanka qui les avait punis justement en Ukraine lors d'un 2-2. Et il a marqué face aux Allemands, et c'est un joueur qu'il va falloir, je pense, suivre de très près, parce que pour le moment il joue toujours en Ukraine, et je ne serais pas étonné qu'après un gros euro, il débarque en Europe contre quelques dizaines de millions l'été prochain. Voilà. Je pense qu'on a terminé ce 20e podcast, le dernier de l'année sur l'équipe de France, je l'ai déjà dit. Le dernier de l'année tout court peut-être aussi, hein, je ne sais pas, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Je ne dis pas au revoir à tout le monde vu que ça lag beaucoup d'après ce que j'ai pu comprendre. Et à la prochaine. Salut.
Salut.
Ciao, ciao.
Salut. Salut.